Ah, voilà, là c'est bien. Ok, super. On va pouvoir démarrer. Alors attendez, il me faut quand même mes petites notes. Et voilà. Donc on en est déjà combien la dette là depuis, je l'ai allumée il n'y a pas longtemps. Hein. Ça a augmenté déjà de 127 000 euros hier, ça tourne vite. Hein. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dette? Alors là, c'est la dette publique, hein. C'est même pas la dette des entreprises, c'est encore plus. Et la dette des particuliers, c'est un peu moins, mais c'est pas mal aussi. Alors avec cette dette, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est plus possible et qu'on doit se serrer la ceinture, austérité, retrouver la croissance, voilà les solutions qu'on nous donne pour payer tout ça. Alors là, oui, vous avez dessous, je redescends tout petit peu. C'est la dette par ménage. Et on en est à 70 465 euros par foyer. Voilà. Donc on a tout ça à rembourser. Et voilà. Donc on arrive à une espèce de mur, on dit aussi le mur de la dette. Mais tout ça, c'est un enfumage complet, en fait. Voilà. On croit qu'il y a une véritable dette, là. On se dit, est-ce que c'est vrai cette dette? Qu'est-ce que c'est que cette dette? Et on va s'apercevoir que c'est lié à la monnaie et à la façon dont la monnaie est créée, ce qu'on appelle la monnaie-dette. Je compare les monnaies dettes, alors telles que l'euro, le dollar, la livre, enfin pratiquement toutes les monnaies du monde, à des monnaies Windows. C'est-à-dire qu'il y a le code source, il est complètement fermé, déjà on ne sait pas comment ça se passe. Alors heureusement, si on s'y intéresse, on arrive à comprendre. Et après, comment on peut agir dessus? Là, on ne peut même plus reprendre leur logiciel, il faut en faire un autre, quoi. Et on est obligé de créer d'autres monnaies. On n'a pas le choix. Il faut arriver à comprendre comment cette monnaie, elle est créée à la base. Alors, je vais faire une petite démonstration d'abord en trois parties, disons. Une partie pour vous expliquer d'où je parle, comment j'en suis arrivée à penser ce que je pense. Une partie pour vous expliquer la création monétaire actuellement, comment ça se passe. Et en troisième partie, comment on peut dépasser ça et la chance qu'on a actuellement parce qu'on peut créer des nouvelles monnaies et arriver à des monnaies vraiment libres grâce au numérique et au réseau Internet. Et on laissera 10 minutes pour le débat à la fin. Je vais essayer de compresser au maximum. Mais je stoppe ça parce que là, je vois que vous êtes hypnotisés par le truc. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, on stoppe. Voilà, on ferme les onglets. Et voilà. On arrête de regarder ce truc qui nous enfume. Alors, d'où je parle? Dès 2000, je me suis intéressée aux enjeux du web libre. Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais voilà. Donc, j'ai compris déjà avec les logiciels libres et les enjeux du numérique libre qu'il se passait quelque chose et qu'on pouvait faire autrement déjà. Et vers 2005-2006, je me suis intéressée à la monnaie parce qu'à force de réfléchir, je me suis rendu compte qu'on revenait toujours à la monnaie. C'est-à-dire, tiens, on veut faire ça, mince, on manque de financement. On veut contribuer dans les logiciels libres, oui, mais le temps, c'est de l'argent, et j'ai pas beaucoup de temps, et je suis obligée d'aller coder ailleurs, chez les grands groupes, type Orange ou autre, hein, et j'ai pas trop le temps pour détricoter la nuit et faire du logiciel libre. Tous les contributeurs, que ce soit dans la culture libre, en open source, etc., et chaque fois, on revient à la monnaie, mince, il nous manque de l'argent, il nous manque de la monnaie. Alors, pourquoi il nous manque de la monnaie? Voilà, question qu'on se pose. Et c'est quoi la monnaie? La monnaie, ça fait partie de nos échanges. Alors à l'époque, en 2006-2005, on avait. C'est Jean-François Noubel que j'avais rencontré qui s'intéressait beaucoup à la monnaie. Il avait, lui, réussi à dévoiler que c'était une structure sous-jacente qu'on ne voit pas très bien, mais qui influence tous nos comportements, en fait. Et il prenait comme comparaison le jeu de Monopoly. Vous mettez les plus grands sages au monde autour du jeu de Monopoly, hein, Jésus, Bouddha, Gandhi, qui vous voulez, ça va devenir des horribles qui vont se batailler pour avoir toute la rue de la paix. Il n'y a qu'une solution, c'est changer les règles du jeu. Ensuite, on s'était amusé aussi sur Twitter, je ne sais pas s'il y en avait à l'époque, sur 2006-2007, je ne sais pas si vous étiez connecté à Twitter, et on avait lancé une tweet bank avec Glenn Roland, qui est développeur, et on s'était amusé à faire des monnaies Twitter. Et on s'était amusé aussi à faire des monnaies love money pour remercier, des monnaies de remerciement. Voilà, on tâtonnait, Flowplace aussi, qui est un endroit où on tâtonnait à créer, inventer d'autres monnaies, voir comment on pouvait rémunérer nos échanges autrement. Mais j'avais pas encore compris à cette époque-là comment était, j'avais compris que le problème était la monnaie, mais pas comment elle a été créée. Et ensuite, pour ceux qui me connaissent ici, savent que je m'active pour faire connaître le revenu de base. Et c'est vers 2008-2009 que je me suis intéressée au revenu de base. Alors le revenu de base, qu'est-ce que c'est? C'est un revenu, une monnaie attribuée à tout le monde, individuellement, hein, femmes, hommes, enfants, régulièrement, chaque mois ou tous les deux mois, tous les trimestres, enfin, qu'importe, régulièrement, sans aucune contrepartie, inconditionnellement. Voilà. Un revenu de base pour avoir nos besoins primordiaux assurés et ne plus être donc sans monnaie et crever, parce que sans monnaie, on est foutu dans le monde actuel. Et le revenu de base avait déjà été perçu par Thomas Paine, qui était un révolutionnaire qui a été député en 1792 dans le nord de la France. C'est un Anglais qui était allé aux États-Unis et puis après qui était venu en France. Et aux États-Unis, il avait vu que les tribus dites primitives avaient accès, il n'y avait pas de propriété. Donc avait accès à toutes les ressources, l'eau, la terre, la chasse, etc. Et lui s'était dit, dans nos civilisations, on a des personnes se sont octroyées des bouts de terre, donc sont devenues propriétaires terriens, mais on en privait d'autres. Si on privatise la terre, on prive les autres d'un bout de terrain. Donc il trouvait ça injuste et il a écrit un petit bouquin qui s'appelle « De la justice agraire » où il avait déjà pensé pour Paris comment redonner de la monnaie aux gens qui étaient privés, pas à tout le monde en fait, hein. C'était pas aux gens qui étaient privés de terre, mais comme certains étaient privés de terrain ou de propriété, on devait collectivement se redonner sous forme de monnaie ou autre une rétribution. Voilà. Et vous allez voir que c'est très lié à la monnaie actuelle et comment... La monnaie est devenue privatrice. Elle l'a toujours été, hein, mais là, de plus en plus, si vous voulez, là, on est arrivé au bout de la chaîne, privatrice de liberté. Elle empêche que tout le monde ait accès à la monnaie. Voilà. Pourquoi on n'aurait pas tous accès à la monnaie? Alors, est-ce que c'est en travaillant, parce qu'on se dit, pour avoir de l'argent, si on n'est pas bien né, donc avec un héritage, comment on fait? Il faut travailler toujours plus pour avoir toujours plus de monnaie. Et puis, on se rend compte que c'est... pas vrai même, parce que du chômage, il y en a toujours eu, mais il n'y a plus de travail pour tout le monde, enfin plus d'emploi. Il ne faut pas confondre emploi et travail, parce que du travail, il y en a, alors là, il n'y manque pas. Tous les gens, justement, comme vous, là, qui sont embarqués dans tout ce qui est l'open source, logiciel libre, etc., du travail, on sait qu'il n'en manque pas, quoi. Que ce soit en agriculture pour ouvrir les semences libres, toute la culture libre, etc., du boulot, il y en a. Mais comment on fait, là, pour rémunérer nos échanges, et on est bloqué? Comment on fait? Et voilà, donc j'en étais là, revenu de base, et puis j'ai rencontré Yolande Bresson, qui est décédée cet été, un économiste, et qui avait pensé déjà au revenu d'existence, il appelait ça, dans les années 80. Alors, aussi, juste pour bien mettre, voir que le revenu de base, c'est pas quelque chose de français, hein, c'est un mouvement international depuis 30 ans et qui grossit partout dans le monde. Et donc lui, il avait pensé à faire, alors je ne savais pas que ça existait à l'époque, une rente perpétuelle pour financer le revenu de base. Hein. Alors, ce n'est pas vraiment un financement, vous allez voir justement pourquoi. Il avait pensé à une rente perpétuelle. Alors ça, je ne savais pas que ça existait. Une rente perpétuelle, c'est quoi? C'est des banques privées qui peuvent prêter à l'État sans que la monnaie soit remboursée, le capital soit remboursé, mais avec un intérêt. Il n'y a que l'intérêt à rembourser. Et ça se fait dans quelques domaines... Voilà, quelques petits domaines. Et lui, il avait pensé à ça pour le revenu d'existence. Bon, il avait pris, on va être un peu fictif, disons, les 400 euros par personne, alors on a besoin de 400 milliards. Les banques privées prêtent 400 milliards à l'État et on rembourse que 1% par an, 4 milliards, ce qui est bon, pratiquement rien à l'échelle de la nation. Et chaque banque ouvre un compte revenu d'existence. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les banques privées prêtent de l'argent aux États. Moi, je croyais pas ça. Je croyais que c'était les États qui frappaient monnaie. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui pensent que c'est l'État? Non. Après, je pensais que les banques aussi pouvaient prêter que ce que les épargnants avaient mis aussi. On peut penser ça. Et puis non, c'est pas vrai. Donc je me suis renseignée et grâce à Internet, voilà, j'ai compris que la monnaie était aux mains des banques privées et que c'était elles qui décidaient de la pluie et du beau temps. Voilà. Alors comment on en est arrivé là? Je vais pas vous raconter toute l'histoire de la monnaie. Vous avez des documentaires, des bouquins fantastiques à ce sujet. Je vous conseille d'ailleurs d'être 5000 ans d'histoire de David Graeber, anthropologue qui était au cœur à l'origine d'Occupy Wall Street. Passionnant. Voilà. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire de la monnaie, mais on va parler de la monnaie, comment elle est faite actuellement. Et je voudrais vous citer, Maurice Allais, qui est décédé, prix Nobel de sciences économiques en 1988. Alors, je vous lis la phrase. Il a dit, par essence, la création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable, je n'hésite pas à le dire pour que les gens comprennent bien ce qui est en jeu ici, à la fabrication de monnaie par des faux monnayeurs, si justement réprimés par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Voilà. On en est là. Une monnaie qui est faite par des faux monnayeurs, en fait, les banques privées. Alors, évidemment, je ne dis pas que tous les banquiers sont des horribles, etc. C'est le système qui est comme ça. Hein. Je tape pas sur les gens. Hein. Je mets le système à jour, voilà, le code à jour. Après, on est tous embarqués dans cette structure, voilà, parce qu'on n'a pas trop de choix. Enfin, les choix arrivent, heureusement, mais on n'a pas trop de choix pour le moment. Quoi. Alors, concrètement, comment ça se passe? La monnaie est créée quand on fait un emprunt. Voilà. Je vais à la banque, j'ai besoin de 100 000 euros pour construire une maisonnette, une petite maison, etc. Alors déjà, pour pouvoir emprunter, faut-il que j'ai déjà de l'argent, des garanties. Donc quelqu'un qui est sans monnaie ne peut pas être créateur d'argent. Voilà. Donc je vais à la banque, j'emprunte mes 100 000 euros, je donne mes garanties. Et là, la banque, ex nihilo, vraiment à partir de rien, crée 100 000 euros. C'est un compte comme ça. Elle met 100 000 euros sur votre compte. Elle met 100 000 euros en débit. Mais l'argent n'existait pas avant. C'est créé à partir de rien. Et qu'est-ce qui se passe quand on rembourse, au fur et à mesure du remboursement, le capital, les 100 000 euros, chaque fois que le capital est remboursé, la monnaie est détruite. Ce qui se fait pas avec la rente perpétuelle, où la monnaie, justement, n'est pas détruite. Ce qui est l'intérêt. Et puis après, bien sûr, l'intérêt. Et l'intérêt, c'est pour qui ? Pour les banques privées. Voilà. Alors, ça nous oblige à quoi, tout ça? Ça nous oblige à une croissance perpétuelle, pour toujours avoir de la monnaie, emprunter, parce que si on arrête d'emprunter, il n'y a plus d'argent, puisque l'argent est créé par l'emprunt. C'est ce qui se passe, on en est là aujourd'hui. C'est quoi l'austérité? C'est qu'il n'y a plus assez d'emprunteurs, et que les banques ont serré les tuyaux, en disant, oh là là, non, là, ça devient trop dangereux. On ne va pas pouvoir nous rembourser. Et c'est un cercle vicieux, et donc crise après crise sur crise. Voilà. Et alors actuellement, il y a quand même des économistes et des anciens banquiers traders qui sont en train de dire que pour 2015, on va avoir une belle crise pire que 2008. Hein. Tout ça à cause de la monnaie dette. Alors ça, c'est beaucoup moins digne, bien sûr. Alors ce que je vais faire quand même, je vais vous passer... parce que là, je ne sais pas si vous avez tous bien pris... conscience de ce processus. Il y a un petit film qui explique en quelques minutes la monnaie dette, qui est très bien fait, une petite animation, donc ça sera encore mieux que ce que je dis, je pense, et je vais vous passer le film. En espérant que j'ai le son, normalement il y a le son branché. J'espère que j'ai le son. Où je monte le... Ici, ouais. Ça, d'accord. C'est où ?
Ça, Non, ça, c'est pour la luminosité. Non, il n'y a pas dessus. D'habitude, elles sont par là, mais... Si. Ah, mais oui. Bon, là, ça s'est pas coupé, ça.
Bon, je vais déjà ouvrir mon fichier.
Ça
On va voir, il y a le son là ? Pas l'air, non. Alors, c'est une vidéo qui date de 2011. Mais bon, elle est tout à fait d'actualité. Alors, vous avez des personnages qu'on voit moins, quoi qu'il revienne, lui, je crois, maintenant, là, sur la scène publique. Alors, voilà, la technique, c'est toujours... Ah bon, je vais continuer à parler en attendant. Quelque chose qui est important, vous allez un peu le voir dans le film, mais une notion aussi de masse monétaire qui est importante à comprendre. C'est-à-dire, je reprends toujours l'exemple des 100 000 euros qui ont été empruntés. Ça met 100 000 euros en circulation. 100 000 euros en circulation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va payer des artisans, des menuisiers pour faire la maison. Et imaginons... là, je reprends l'exemple de Gérard Fouché aussi. Hein, je vous signale Gérard Fouché, qui fait des conférences gesticulées sur la création monétaire. Et qui a écrit un livre, Les secrets de la monnaie, c'est extra. Alors, si jamais il passe, il est déjà venu à Toulouse, s'il passe dans le coin, je vous conseille d'aller le voir. Et sur Internet, vous avez aussi toutes les vidéos de Gérard Fouché. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, vous avez le petit restaurant du coin, là, où, qui manque de clientèle, il se demande s'il ne va pas virer son employé parce que, il n'a plus assez de clients. Et là, cette dame, ou cette personne qui vient d'emprunter les 100 000 euros, elle va. Payer des artisans, et ces artisans vont avoir de la monnaie, ils vont pouvoir aller au restaurant. Pour vous montrer comment tout est lié. Et ça, c'est la masse monétaire qui est en circulation. Et cette masse monétaire ne dépend que de l'emprunt. Donc, quand il n'y a plus d'emprunt, eh ben, pouf, il n'y a plus d'argent. C'est vraiment le cœur du problème.
Exposé au cours de cette dernière décennie.
La dette publique, encore et toujours la dette publique.
Il faut moins de dette publique.
Dette publique,
dette publique,
dette publique.
Oui, oui, on a compris. Mais en effet, il y a de quoi la prendre au sérieux, cette fameuse dette publique. Son impact est mondial, et rares sont les pays qui ne sont pas sévèrement touchés. La preuve, la dette publique mondiale n'a cessé d'exploser au cours de cette dernière décennie. Mais pourquoi autant de dettes? Que faudrait-il faire?
Il faut moins de dépenses publiques.
Plus de compétitivité,
un plan d'austérité, tout privatisé.
Oula, doucement, vous en êtes bien sûr? Déjà, comment expliquez-vous que autant de pays soient endettés à ce point-là? C'est bizarre quand même. Et pourquoi ne parlez-vous pas du système des réserves fractionnaires? De la création monétaire par le crédit? Ou de l'article 123 du traité de Lisbonne? Il me semble que c'est important. Je vois, vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir que je vous explique. L'économie, c'est comme une baignoire. La monnaie est son eau. La règle est de la remplir avec la bonne quantité. Ni trop, ni pas assez. Quand une économie est en croissance, c'est comme si la baignoire grossissait. Il faut donc rajouter de l'eau. C'est-à-dire créer de la monnaie. Donc une première question s'impose. Comment est créée la monnaie ? Les robinets de l'économie, ce sont des banques très particulières, normalement publiques, que l'on appelle des banques centrales. Elles peuvent créer et détruire la monnaie à volonté, et donc remplir ou vider l'économie. La monnaie créée par ces banques s'appelle la monnaie centrale. Mais, petite astuce, il existe un deuxième robinet, constitué des banques commerciales, c'est-à-dire les banques privées. Cependant, ce robinet fonctionne d'une manière un peu particulière. Je vous explique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit. Pour Pour savoir lequel de ces deux robinets coule le plus fort, il faut connaître les règles qui permettent de les tourner. Première règle, l'article 123 du traité de Lisbonne. Il fut un temps où les États se finançaient auprès de leur banque centrale et faisaient donc couler le premier robinet. Autrement dit, les banques centrales créaient l'argent dont les États avaient besoin pour combler leur déficit. Ce que l'on appelle aussi faire tourner la planche à billets. Mais l'abus de cette pratique a des fins généralement électorales, provoquait par moments une inflation importante. C'est pourquoi, depuis les années 70, influencés par le monde financier, les États s'interdirent le recours aux banques centrales. Cette interdiction existe toujours et est aujourd'hui visible dans le traité de Lisbonne, signé par tous les membres de l'Union européenne, sous l'article 123. Les États ne peuvent donc plus faire couler le premier robinet. Ils utilisent alors le second. Cela veut dire que pour combler leur déficit, les États font désormais des emprunts auprès du marché financier, et plus particulièrement auprès des banques commerciales. Deuxième règle, les réserves fractionnaires. Tout comme les États, les ménages et les entreprises font aussi leurs emprunts auprès du marché financier. Cela garantit alors pour les banques commerciales beaucoup d'argent à prêter en perspective. Mais disposent-elles de suffisamment de fonds pour cela ? A priori, oui, car comme nous l'avons vu, les banques commerciales créent l'argent qu'on leur emprunte. Mais il existe une limite, que l'on appelle le taux de réserve. La création ne peut avoir lieu que si la banque possède une certaine quantité de monnaie centrale. Cependant, cette limite est franchement souple, puisque, au final, les banques commerciales peuvent créer et prêter plus de 6 fois ce qu'elles possèdent en monnaie centrale. Et si malgré cette souplesse, elles sont tout de même à court, pas de souci, puisqu'elles sont autorisées à emprunter autant que nécessaire auprès des banques centrales. Cela laisse donc pas mal de liberté au second robinet. Ce système plutôt méconnu s'appelle le système des réserves fractionnaires. Il est pourtant répandu dans le monde entier. Trêve de robinetterie, revenons à la baignoire. Nous venons de voir que le premier robinet ne sert plus aujourd'hui qu'à alimenter le second. En d'autres termes, la monnaie centrale ne sert plus aujourd'hui qu'un rôle de régulation pour les banques. On peut donc comprendre que la baignoire est alors totalement remplie de la seconde eau. Autrement dit, la totalité de la monnaie en circulation prend désormais son origine dans les crédits accordés par les banques. En effet, l'essentiel de la monnaie est de la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire de la monnaie issue du crédit. Or, il y a un problème avec cette eau. Elle s'évapore. Et oui, puisque la monnaie provient du crédit, elle disparaît quand ces mêmes crédits sont remboursés. Il faut donc sans arrêt refaire couler le second robinet pour garder la baignoire pleine. C'est-à-dire que les États, les ménages et les entreprises doivent sans cesse emprunter auprès des banques pour que l'économie fonctionne. Deuxième problème, cette eau coûte très cher. En effet, les crédits accordés par les banques s'accompagnent d'un taux d'intérêt servant à rémunérer la banque. Il faut par conséquent payer perpétuellement des intérêts sur cette monnaie scripturale qui remplit l'économie. Et je peux vous le dire, cela représente un sacré pactole pour les banques et leurs créanciers. Et un sacré manque à gagner pour tous les autres. On va voir combien ces fameux intérêts peuvent coûter avec un exemple concret. L'énorme dette publique française. Respectant les règles qui ont été décrites, l'État français ne fait plus appel à sa banque centrale et paye donc des intérêts depuis 1973. Lorsque l'on somme ce qui a été payé en intérêt seul depuis cette date, on obtient le nombre remarquable de 1400 milliards d'euros. Pourquoi remarquable ? Parce qu'il est très proche d'une autre somme, la dette publique française actuelle, qui a augmenté sur cette même période de 1350 milliards d'euros. En clair, ce qui fait grossir la dette, ce sont tout simplement les intérêts de cette même dette. Et n'oublions pas qu'il ne s'agit ici que de la dette publique. La dette des entreprises commerciales françaises, par exemple, elle est aujourd'hui de 7000 milliards d'euros. Les raisons d'un tel florilège de dettes publiques et privées partout dans le monde sont maintenant plus claires. En effet, une grande partie des pays de la planète baignent dans le même bain, à devoir faire des emprunts et payer des intérêts pour faire fonctionner leur économie. Pour rembourser ces emprunts et ces intérêts, il faut faire d'autres emprunts plus importants, qui amèneront d'autres intérêts plus importants aussi. On aboutit donc de cette manière à une dette qui se nourrit d'elle-même, et grossit, 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 inévitablement. Vous avez déjà dû entendre que la dette publique est provoquée par une mauvaise gestion des dépenses de l'État, ou à un manque de compétitivité, et que la seule manière de la résorber est de privatiser l'économie ou d'appliquer des plans d'austérité. Eh bien, sachez que ce sont des conneries. Il est mathématiquement impossible de résorber l'ensemble des dettes publiques et privées sans aborder la question de la création monétaire par le crédit avec intérêt, puisqu'elles en sont les causes naturelles. Si vous voulez résorber la dette, le premier prérequis indispensable est d'arrêter de faire couler le second robinet pour remplir la baignoire et d'utiliser plutôt le premier à bon escient. C'est-à-dire limiter le pouvoir de création monétaire aux seules banques centrales. C'est le seul moyen d'obtenir un système monétaire qui n'auto-alimente pas sa propre dette. Il y a une quarantaine d'années, les États se sont interdits l'accès à leur banque centrale sous prétexte que le premier robinet était parfois utilisé de manière abusive. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la situation inverse, où le premier robinet manque cruellement et un autre l'a remplacé, remplissant l'économie de dettes impossibles à rembourser. Tout cela, ne l'oublions pas, au profit des grandes banques et de leurs créanciers. Je trouve déplorable qu'un sujet si crucial ne soit ne serait-ce que débattu par la classe politique, ni ne soit jamais traité dans les grands journaux. Merci de votre attention.
Voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair? Parce que vous pouvez essayer des fois, ça peut être marrant quand vous allez voir votre banquier dans une agence. Vous demandez comme ça, tiens, vous savez comment est créée la monnaie? Ça peut être assez drôle, hein, parce que la plupart des responsables d'agences bancaires ne le savent pas du tout. Hein. Et alors, s'il y a besoin encore d'une autre preuve, parce que comme on n'en parle pas souvent, hein, c'est quelque chose qui n'est jamais débattu, hein, nulle part, enfin surtout pas à la télé, sur Internet oui, mais pas à la télé, y a des gens qui croient toujours pas ça. Alors, on peut... Je retrouve. Si on croit toujours pas ça, vous pouvez encore montrer cette petite vidéo qui est très courte. Attendez.
En décembre 2011, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, nomme Bernard Maris conseiller général de la Banque de France.
Dégraisser. Vous voyez, alors au Maroc, les gens sont maigres. Je les paye 240 euros par mois.
Il est bien placé pour connaître le système monétaire. Et quand on lui demande d'où vient l'argent que prêtent les banques, sa réponse est stupéfiante.
Elle le fabrique elle-même avec l'autorisation de la Banque centrale. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas, 500 000 euros, eh bien, la banque va fabriquer 500 000 euros à partir de rien. Alors, vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 euros de billets. Si. Elle fabrique 500 000 euros de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 euros en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera... Mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 euros en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 euros, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 euros en billets. Sauf que comme ces billets ils sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien de la créer. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre.
Voilà. Très difficile à comprendre, et pourtant, c'est quand même très simple. Non? Alors, si on vous redemande, si vous en parlez autour de vous, hein, Et peut-être pour ceux qui sont encore un peu dubitatifs. Et mais quand même, c'est pas vrai ce truc-là. Ben, écoutez, même la Banque de France, j'espère que je vais pouvoir l'ouvrir, a sorti un petit livret qui s'appelle « La monnaie et nous ». Oui, vous le trouvez sur le site de la Banque de France. Voilà. Alors, c'est la page, si mes souvenirs sont bons, 10. La page 10. Voilà, la notion de monnaie centrale. Alors, ça va être la page 11. Ah, mais je suis à 18. Qu'est-ce que... Ah, ouais. Voilà, j'y suis. Alors oui, donc là, il parle de la masse monétaire, hein, donc cette monnaie qui est en circulation à l'instant T, cette monnaie créée par les banques. Prenons le cas, voilà, c'est écrit très nettement, hein, prenons le cas d'une entreprise pour fonctionner. Elle a souvent besoin d'argent frais, car il lui faut du temps pour fabriquer des produits, vendre et être payée par les clients. Et en attendant, elle doit payer les fournisseurs, acheter du matériel, rémunérer les salariés. Elle s'adresse donc à sa banque qui va pouvoir lui accorder un crédit moyennant intérêt. Bien entendu, la banque inscrit le montant du crédit au compte de l'entreprise. La banque a créé de la monnaie. C'est clair. C'est ainsi que la banque augmente par le crédit le montant des dépôts et crée de la monnaie. De son côté, l'entreprise s'engage à rembourser, etc. L'entrepreneur a maintenant les moyens, etc. Au total, la masse monétaire ne cesse de varier au rythme des créations et destructions continuelles de monnaie. Ouais. Alors, c'est clair quand on a compris. C'est évidemment si on n'a pas tout à fait pigé, mais voilà une preuve de plus pour vous dire, voilà, c'est comme ça que la monnaie est créée de nos jours. Alors, j'espère que vous avez tous compris. Est-ce que tout le monde a compris maintenant comment est créée la monnaie? Qui n'a pas compris? Ah, super! On va pouvoir passer à la seconde partie, parce que là, c'est un peu plombant quand même. Hein, parce que bon, hein, vous avez bien compris que cette monnaie dette influence complètement nos comportements et nous oblige à faire sans arrêt du profit de la rentabilité, de la croissance et prive de monnaie pas mal de gens. Quoi. Et nous empêche de faire nos échanges de biens et services entre nous, comme on voudrait le faire. La bonne nouvelle, ouf, grâce maintenant au réseau... numérique et Internet, on peut faire autrement à grande échelle, parce que avant, il y avait toujours d'autres systèmes, hein, le SEL, les systèmes d'échanges locaux, mais ça reste à petite échelle, hein, c'est des systèmes hors dette. Alors, il y a des gens qui pensent, avant de parler vraiment monnaie, crypto-monnaie, monnaie numérique, les monnaies libres, je ne sais pas si vous avez fait attention aux monnaies centrales, donc les banques centrales hein, qui émettent de la monnaie pour les banques privées, en fait, et pas pour notre économie. Il y a un mouvement en Angleterre qui s'appelle Positive Money et qui fait un lobbying énorme. Il y a plus de 20 000 membres. Ils font plein de vidéos super, justement pour faire comprendre déjà la création monétaire. Et ensuite, eux voudraient qu'il y ait... Alors, le quantitative easing, c'est ça. C'est quand les banques centrales créent la monnaie. Et eux, ils demandent du quantitative easing for people. C'est-à-dire que... Au lieu que cet argent soit distribué aux banques, soit distribué directement aux personnes, en principe de subsidiarité, directement aux personnes. Bon, ça veut dire qu'il faudrait convaincre les banquiers centraux de faire ça. Ça s'est déjà fait aux États-Unis, mais très ponctuellement, justement pour endiguer un peu des révoltes populaires quand il manque de monnaie. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais enfin, dernièrement, ils ont fait une enquête chez les parlementaires anglais. 6% des parlementaires savaient comment la monnaie est créée. Que 6%. Et ils ont réussi, d'ici quelques semaines, il va y avoir, donc dans les députés qui étaient sensibilisés, il va y avoir une journée sur la création monétaire au Parlement anglais. Donc c'est déjà, ça avance, quoi. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres systèmes, là, qui font réfléchir aussi à la monnaie. Je pense aux monnaies complémentaires type sol. Il y en a plus de 5000 dans le monde, ça émerge. On voit bien qu'on est tous là en train de réfléchir à des nouvelles solutions, on est en manque de monnaie. Bon, les monnaies complémentaires, actuellement, ça fleurit partout. Le problème avec la plupart des monnaies complémentaires, c'est qu'elles sont toujours adossées à l'euro. Donc ce sont en fait des bons d'achat. Et vous devez avoir de la monnaie déjà euro pour pouvoir acheter des sols. Sinon, si vous êtes sans argent, vous ne pouvez pas acheter le sol. Par exemple, hein, je dis les sols, mais c'est pareil pour plein de monnaies. Quoi. Il y a ça aussi, parce que ça coûte cher à imprimer, ben, etc., etc. Oui, bon, je ne vais pas rester longtemps sur les monnaies complémentaires, mais pour dire, alors c'est bien, ça fait réfléchir, ça relocalise l'économie. Après, il y a le côté fondant qui est intéressant, etc. Bon, l'argent n'est plus dans la spéculation. Bon, il y a plein de choses positives, mais on reste enfermé dans le code monétaire de la monnaie dette. On n'en sort pas. Et ensuite, il y a des gens qui pensent aussi forme de crédit mutuel, donc comme le sel. Mais maintenant, avec le numérique, on pourrait être un peu plus avancé dans des formes de crédit mutuel. Ça s'est déjà fait dans les années 30, des échanges surtout inter-entreprises. Dans les années 30, ensuite, en Suisse, il y a eu le VIR, qui est justement en pleine crise. Comment les Suisses s'en sont sortis? Parce qu'ils ont créé cette monnaie VIR, alors un système de crédit mutuel, entre entreprises uniquement. Et actuellement, il y a un projet qui s'appelle Simba, qui est un peu basé sur le VIR en Île-de-France, qui va bientôt, c'est en cours, quoi, pour faire une monnaie sous forme de crédit mutuel entre entreprises aussi. Donc ça, c'est des solutions aussi qui sont, là, c'est hors monnaie dette aussi, hein, crédit mutuel. Voilà, on n'est plus dans l'euro. Et après, arrive, on va parler des monnaies, des crypto-monnaies. Alors, je ne vais pas m'étendre non plus trop longtemps sur les monnaies type Bitcoin. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus où, qui c'est qui m'a parlé tout à l'heure du Bitcoin ? Il n'est pas là ? Ah, mais voilà ! Voilà, c'est ça la chemise. Alors, lui, on verra dans le débat, il connaît par cœur hein, le Bitcoin, l'Ether, tout ça. Alors, le Bitcoin, formidable avancée, parce qu'enfin, on a réussi à... générer une monnaie qui soit complètement hors dette avec un algorithme numérique, quoi. Alors, c'est quoi le Bitcoin? Alors, je vais faire très simple. Hein. C'est un peu comme de l'or numérique, si on peut dire. Voilà. Il y a une quantité définie à l'avance. Je crois que c'est 21 millions. Premier entrant, premier servi, quoi. Hein. C'est un peu le système. Donc, c'est là qu'on va voir que c'est peut-être pas l'idéal encore, hein. Il faut des machines super puissantes pour miner. D'ailleurs, on dit miner, forer, hein, comme pour l'or. Il faut des machines super puissantes pour générer le code et générer les bitcoins, les blockchains de bitcoin. Et ensuite, on peut en acheter aussi. Il y a le Litecoin. Comment je compare un peu avec l'argent, c'est-à-dire l'argent a moins de valeur que l'or. Voilà. Mais c'est sur le même principe que le bitcoin. Alors il y a l'Ether qui arrive, très intéressé par l'Ether, hein, tu es très intéressé, voilà. Ouais, c'est encore différent, mais bon, c'est basé, je disais sur la bande passante, hein, par les serveurs web, quoi. Hein. Bon, tu nous expliqueras un peu plus si certains sont intéressés à la fin. Alors ça serait comme le pétrole, vous voyez. Donc on fait des comparaisons comme ça, mais on reste sur des ressources qui sont rares. Voilà. Et alors, il y a aussi le Faircoin. Alors là, ça génère 50 millions de Faircoin, un petit beaucoup plus que les Bitcoins. Et le Faircoin, ils ont distribué aléatoirement tous les participants du réseau au départ, pour que ce soit un peu plus équitable. Voilà. Et donc, ça serait pour la Faircoupe, pour une monnaie pour tous les systèmes d'économie sociale et solidaire, etc. Quoi. Mais on reste encore dans des monnaies, on peut dire rares, mais c'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée et qui n'est pas totalement symétrique. Alors oui, décentralisée, oui, mais symétrique, non. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver la légitimité de ces monnaies. Parce que... Alors, je vais vous parler de Olivier Aubert. Est-ce que quelqu'un connaît Olivier Aubert dans la salle ? Non, c'est un artiste bricoleur du numérique qui travaille depuis très longtemps sur la perspective numérique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de son travail, mais il s'intéresse aux enjeux du numérique libre depuis très longtemps. Et il interroge tout réseau par est-ce que le réseau est légitime ? Et là, c'est très intéressant de reprendre ces éléments pour interroger la monnaie. Alors, je vais vous dire, la légitimité, qu'est-ce qui serait légitime pour que nous, humains, puissions exercer notre souveraineté et liberté sans impacter sur la liberté des autres, hein. Alors, voilà comment Olivier Aubert interroge le réseau. On va prendre l'agent A. Le réseau accepte-t-il tout agent qui le demande? Et l'agent A peut-il librement quitter le réseau? Question à se poser. Est-ce qu'on peut... Alors, monnaie dette... ça a été très difficile. Oui, alors qu'il le demande, on n'a même pas le demandé, on nous oblige à être dedans à l'arrivée, le quitter, on essaye, mais bon, c'est difficile, on est quand même coincé, quoi. On peut interroger Facebook, hein, comme ça aussi. Tout réseau, hein, réseau de conversation, réseau d'échange de biens et de services, réseau de monnaie, donc voilà, tout réseau. Ensuite, on va prendre A et B, donc deux agents. Tout agent B, donc présent ou futur, est-il traité comme l'agent A ? Et c'est là que ça devient intéressant. Y compris les agents qui conçoivent, développent, administrent et font évoluer le réseau. Parce que bien souvent, là, si on interroge Facebook, c'est clair qu'on n'est plus du tout ceux qui ont conçu les données centralisées de Facebook, ceux qui ont conçu le... On n'est pas du tout au même niveau. Hein, parce qu'eux ont accès à toutes les données de tout le monde. Nous, est-ce qu'on a accès aux données, à toutes les données de tout le monde ? Non. Alors, bon, la monnaie dette, là, j'en parle plus, on est déjà sorti, hein, ça, c'est légitime en rien du tout. Hein. Et le dernier critère, c'est quand il y a trois agents, l'agent B, agent A, agent B, agent C, donc la multitude. Est-ce que le réseau satisfait donc déjà aux deux premiers critères, hein, et est-ce que ça suffit, est-ce que se reconnaissent entre pairs ? Voilà. Donc là, c'est la symétrie complète, le pair à pair. Voilà. Donc là, on est sûr que Facebook, ça marche pas. Framasphère, par contre, vous connaissez Framasphère, Diaspora ? C'est un réseau un peu comme Facebook, si vous voulez, un réseau de conversation, qui répond à ces trois critères. Alors, est-ce qu'on peut interroger le Bitcoin sur ça ? Ça répond pas, là. Là, on bloque. On peut... La première question, c'est bon. La seconde, c'est plus bon, quoi. Voilà. Parce que c'était les premiers servis. Hein. Là, ça, on n'est plus du tout pair à pair. Alors après, si, on est, c'est quand même décentralisé, hein, sur, mais à un moment donné, il n'y a pas tout le monde qui est traité de la même façon également. Et donc, c'est intéressant d'interroger dans les monnaies cette question chaque fois de symétrie et de décentralisation. Et on va arriver à la TRM, je regarde l'heure, on est déjà... On va arriver à la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde. Je dépasse, là, je vais essayer d'aller plus vite. Je n'ai pas vu l'heure avec les problèmes techniques. Waouh. Alors, la théorie de la monnaie, théorie relative de la monnaie de Galuel, c'est son pseudo, donc Stéphane Laborde. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Vous avez tout sur son site créationmonétaire.info, mine d'informations. C'est une théorie mathématique hein, basée sur... l'espace, le temps et l'espérance de vie. Et de là sont issues déjà trois monnaies. Une qui marche et deux en cours de développement. Les générations sont prises en compte. Ça suit un peu le travail de Yolande Bresson. Hein. Donc l'espace, ben, c'est le nombre de participants. Et les générations, c'est ben, on rentre dans le système, mais on va mourir. Et comment on peut ne pas être défavorisé par rapport aux suivants ? C'est-à-dire toujours penser aux générations qui vont arriver. Ceux qui se sont gavés, ben, mettons, dans les années 70 à un moment donné, et qui n'ont pas pensé aux générations suivantes. Hein. Voilà ce qui va se passer maintenant. Dans ce système-là, il y a tout le côté génération. Personne n'est lésé à n'importe quelle époque. Et ça évite les crises. Voilà. Et donc, c'est ça le temps. Et ils calculent ça sur l'espérance de vie. Donc, grosso modo, dans nos sociétés, c'est 80 ans. Mais on pourrait le mettre sur 40 ans si on vivait moins, on pourrait le mettre sur 120 ans si on vit plus. Et donc le calcul est fait par rapport donc à la masse monétaire, la telle monnaie en circulation à tel moment, le nombre de participants et une équation faite avec l'espérance de vie, c'est 80 ans, qui va donner un pourcentage qui va faire le dividende universel et distribuer à tout le monde. Actuellement, vous avez monnaie M qui fonctionne comme ça. Alors c'est fait sur tout petit tableur, centralisé sur un serveur. C'est une expérimentation, mais qui est déjà très bien. C'est Merom qui fait ça, monnaie M. Et ça marche un peu pour le moment comme le bon coin. Voilà. Et tous les mois, vous recevez vos M. Il y a un petit calcul qui est fait entre la masse monétaire et le nombre de participants. Il commence à y avoir des gens qui l'utilisent un peu comme Airbnb aussi, hein, pour louer des chambres chez l'habitant. Enfin voilà, ça demande qu'à grossir et vous pouvez vous inscrire dessus. Et les deux autres monnaies donc en cours de développement et qui sont bientôt finalisées, il y a donc Ucoin et OpenUDC. Ces deux monnaies, elles se ressemblent énormément. Elles sont toutes les deux issues de la TRM, mais elles ne sont pas développées dans le même langage. Et donc, ce sont des monnaies qui sont basées sur notre droit d'exister. Des monnaies basées sur l'existence humaine. C'est là qu'on retrouve le revenu de base. Hein. Pourquoi je vous ai parlé de revenu de base au début ? Parce que ce sont des monnaies à dividendes universels, des monnaies basées sur nous. Qui fait l'économie ? C'est bien nous, les humains, qui faisons l'économie. Si on enlève les humains, est-ce qu'il y a encore de l'économie ? Non, il n'y a plus. Voilà. Donc enfin, là, je trouve que c'est vraiment révolutionnaire. On a une monnaie basée sur notre existence et non plus basée sur une production, sur des valeurs qui peuvent être fictives. Chacun peut mettre la valeur où il veut, finalement. Et c'est là où c'est beaucoup combattu. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette théorie de la monnaie. C'est qu'on est dans le relatif. Et c'est vrai qu'on peut comptabiliser nos échanges comme on veut, en fait. On pourrait très bien dire, tiens, ça vaut tant de RSA, tiens, ça vaut tant de voitures, tiens, ça vaut tant de... Voilà, on peut comptabiliser comme on veut. On s'en fiche. Le dividende universel, lui, il n'est pas dans la quantité, il est dans le relatif. Vous avez toujours votre dividende universel qui, lui, est équitable et ne peut pas provoquer d'inflation. On est dans le relatif. Après, vous pouvez calculer vos échanges et mettre la valeur où vous voulez. Ça, c'est la grande liberté. Comme je vois que le temps passe, j'ai pas vu, je vous passe le petit film que nous a fait spécialement donc Stéphane pour le Capitole du Libre. Donc excusez-moi, je suis allée un peu vite à la fin, mais...
Bonjour les Toulousains, salut, c'est Galuel. Donc je vous fais cette petite présentation à la demande de Carole Fabre pour le Capitole du Libre et sa conférence Monnaie Libre du dimanche 16 novembre.
Hein
on va voir ici très rapidement, je vais vous parler du projet OpenUDC YouCoin. Alors, pour se faire d'abord un petit mot assez rapidement sur la théorie relative de la monnaie, on ne va pas s'étendre, hein, puisque ça va être une vidéo qui va durer 5-10 minutes, pas plus. Sur la théorie relative de la monnaie, hein, sur le site...
Désolé.
Bonjour les Toulousains, salut, c'est Galuel. Donc je vous fais cette petite présentation à la demande de Carole Fabre pour le Capitole du Libre et sa conférence Monnaie Libre du dimanche 16 novembre. On va voir ici très rapidement, je vais vous parler du projet OpenUDC YouCoin. Alors pour se faire d'abord un petit mot assez rapidement sur la théorie relative de la monnaie, on va pas s'étendre hein, puisque ça va être une vidéo qui va durer 5-10 minutes, pas plus. Sur la théorie relative de la monnaie, hein, sur le site créationmonétaire.info, vous avez une théorie économique qui, sur des principes de symétrie, et un principe de relativité de la notion de valeur économique, établit qu'une monnaie libre, pour être libre, c'est-à-dire pour avoir des propriétés de symétrie envers qui ? Envers ses utilisateurs, parce que c'est les utilisateurs qui doivent être libres, tout comme dans un logiciel libre, c'est l'utilisateur qui doit être libre, c'est pas le logiciel qui est libre, c'est l'utilisateur. On dit logiciel libre pour avoir une expression simple et rapide, et c'est la même chose pour la monnaie. La monnaie libre, c'est pas la monnaie qui est libre, c'est les utilisateurs qui doivent l'être. Et pour l'être, eh bien, cette monnaie doit avoir des propriétés de symétrie. Ce que peut faire l'un, l'autre aussi doit pouvoir le faire. Ce qui n'est pas évident, et ce que résout comme problématique la théorie relative de la monnaie. Tout simplement considérant que les hommes, les utilisateurs donc de la monnaie, présents et futurs, puisqu'une monnaie s'établit aussi dans le temps, et non seulement dans l'espace aussi entre les hommes qui l'utilisent à un moment donné, c'est-à-dire dans une année par exemple, mais aussi dans le temps, et notamment les hommes, eh bien, ils ont une durée de vie limitée. Et donc la monnaie ne peut considérer... des hommes qui ont des propriétés symétriques entre eux, qu'en tenant compte de ce facteur d'espérance de vie limitée, et au moins de cette espérance de vie moyenne qu'ont les individus humains entre eux dans la zone économique. Donc ici, sur ce schéma, on voit, si vous voulez, ici, des hommes qui naissent, des hommes qui sont un peu plus âgés, et puis finalement des hommes qui disparaissent au bout de EV, l'espérance de vie, c'est-à-dire entre 0 et 80 ans. Et ce schéma-là, il est valable pour toute époque. Donc qu'on naisse ici ou qu'on naisse là, la propriété de la monnaie devrait être la même. Si à un moment donné dans le temps, des utilisateurs n'ont pas les mêmes droits relativement à l'unité monétaire commune ou soi-disant commune par rapport à des générations qui étaient avant eux, c'est-à-dire des plus âgés, qui dans le passé, eux, ont eu des droits supérieurs, eh bien on ne peut pas qualifier cette monnaie de libre. C'est aussi simple que ça. Et la théorie relative à la monnaie, grâce à ce principe de réflexion et des petites équations mathématiques, aboutit au résultat qu'il faut que cette monnaie ait un dividende universel. Cette théorie relative de la monnaie est explicité dans cette page, ici une page complète sur la théorie relative de la monnaie que vous trouvez sur le blog creationmonétaire.info, des podcasts, des fichiers, etc. Des vidéos sur la page vidéo de la creationmonétaire.info, plein de vidéos à voir pour creuser la question, hein, notamment voir comment la masse monétaire évolue dans une monnaie non libre, des fois elle croit, des fois elle ne croit pas, selon des principes qui sont pas du tout des principes de liberté, mais d'autres principes. Voilà, donc comment établir une monnaie libre? Eh bien, il faut produire sa propre monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui ait des caractéristiques de liberté, donc d'autoproduction. Et produire sa propre monnaie, il ne suffit pas d'avoir une monnaie qu'on produit sans comprendre que pour être partagée avec autrui, eh bien, autrui devrait avoir les mêmes droits, comme avec un logiciel. Donc le principe de création devant être le même, il faut reconnaître les individus, ce que ne fait pas un projet comme Bitcoin, ne reconnaît pas les individus, alors ni dans l'espace ni dans le temps, hein, il les reconnaît à aucun moment. Et ce que fait par contre le projet OpenUDC, un des premiers projets de monnaie libre, openudc.org. Donc voilà une page ici, on peut aider au projet OpenUDC qui a déjà son logo, comme vous pouvez le voir. Vous avez ici une page qui résume ici les principes techniques et fondamentaux d'OpenUDC. Vous avez un chat qu'on peut accéder ici en bas à droite et vous mettez votre nom ici. Hop, et vous pouvez rejoindre les contributeurs d'OpenUDC. Voilà. On peut y accéder par d'autres moyens. Là, on ne voit pas les personnes qui sont connectées. Et, vous avez ici le projet Yukon qui, pareil, a un chat aussi. Voilà. Donc, il n'est pas activé là, bon, c'est pas grave. Donc, le projet Ucoin.io, qui est un fork du premier, hein, les deux communautés conversent entre elles, même si il y a des différences techniques, bien sûr, maintenant. Le projet Ucoin, lui, se développe en Node.js, alors que OpenUDC se développe en C. Ça, c'est pour les informaticiens. Et ces deux projets sont des projets de monnaie libre, décentralisée, où les utilisateurs sont reconnus et où est généré un principe de dividende universel qui ne change pas. Voilà. Vous avez aussi sur Ucoin un forum. Voilà, donc je vous laisse découvrir voilà ce principe ici. Vous avez un forum, vous connaissez le principe du forum évidemment. Il y a déjà des questions qui ont été posées avec des réponses. Et vous pouvez donc commencer à vous immerger dans ces projets si vous avez envie de le faire via tous ces moyens de communiquer par chat, par forum ou par mailing list. Je vous laisse découvrir tout ça. Et enfin, donc, pour rejoindre ces projets, il est possible aussi de rejoindre l'événement physique qui en est sa quatrième édition. Et le quatrième Freedom Money Meeting, il y en a deux par an, et pas plus pour l'instant. Donc, c'est à peu près tous les six mois. Enfin, c'est pas très rigoureux en termes de date, mais c'est le quatrième. Donc, ça fait à peu près un an et demi que ça a démarré. Voilà, et vous avez les 27, 28, 29 et 30 novembre à Paris, à Montreuil, 4 jours dédiés à OpenUDC et Ucoin, essentiellement. Donc les 27 et 28, ce sont des journées sur OpenUDC pour le 27, Ucoin pour le 28, hein, mais les deux étant liés, on parlera des deux dans les deux journées quand même, bien sûr. Donc ça c'est pour les informaticiens, mais qui est le public qui intéresse le plus OpenUDC et Ucoin, bien entendu, ce sont des projets informatiques, donc bon, pour participer à ces journées-là, il vaut mieux savoir coder, hein, c'est-à-dire vraiment être un informaticien de bon niveau, écrire des programmes informatiques, notamment des programmes ici P2P décentralisés, donc c'est quand même de la technologie pas évidente. Le 29 novembre, vous avez un jeu, la journée, là c'est plutôt ouvert aux non-techniques, hein, aux contributeurs non-techniques, les 29 et les 30 novembre. Donc le 29 novembre, il y a un jeu La Corbeille, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui permet de simuler avec un nombre de joueurs qui peut aller de 10 à 300, hein, des différents systèmes monétaires justement, et pendant des durées de simulation que maintenant on sait faire jusqu'à 80 ans ou 160 ans, peu importe. On joue le nombre de tours qu'il faut. On peut simuler des longues périodes avec beaucoup de joueurs. Et donc, voir l'impact de l'utilisation dans ce jeu de différents systèmes monétaires, on voit bien que les résultats sont différents, et à la fois en termes de production économique, en termes de répartition de cette production économique, et en termes enfin de sensations des joueurs. Hein, voilà, donc il y a aussi ça, mais sur l'aspect humain, à la fin de chacun de ces jeux, selon le système monétaire qu'on a choisi. Donc, ce jeu La Corbeille se joue plusieurs fois en changeant le système monétaire, et c'est tout son intérêt. Et enfin, le 30 novembre, toujours dédié aux contributeurs non techniques, donc les 29 et 30, c'est pour ceux qui sont soit des informaticiens qui peuvent pas vraiment coder dans un système technique tel que OpenUDC Yukon en direct, mais qui ont des capacités de faire des choses sur Internet, par exemple des blogueurs, des graphistes, des choses comme ça, ou des écrivains, enfin, qui peuvent écrire du texte aussi, hein, qui peuvent analyser. Le 30 novembre, il y a un jour ouvert aussi aux non-techniciens sur le projet OpenUDC Ucoin pour participer justement à des axes de développement des projets qui sont essentiels en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de graphisme, en termes de texte, en termes de vulgarisation, en termes de vidéo, en termes de podcast, enfin en termes de beaucoup de choses, et y compris des choses que vous pouvez apporter vous-même, hein, des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, et qui seront présentées ce jour-là à tous ceux qui voudront s'investir ou rejoindre ces projets et participer au développement donc d'une monnaie libre, hein, c'est-à-dire donc une monnaie telle que OpenUDC ou Ucoin, qui assure que chaque utilisateur présent et futur n'aura pas plus de droits que les autres de création monétaire. Voilà, donc je crois qu'on arrive au bout, hein, de cette petite présentation que je voulais vous faire. Vous voyez, c'est très rapide. Et puis, je pense que Carole Fabre vous aura éclairé sur d'autres aspects concernant la monnaie que vous pourriez donc approfondir ensuite. Il ne faut pas se contenter, bien sûr, de ce qui a été dit là. Il y a beaucoup de liens ici à pouvoir analyser. Voilà, merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de journée à Toulouse, au Capitole du Libre, et pourquoi pas vous rejoindre un jour sur ces projets, soit sur le net, soit dans des événements auxquels on participe. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.
Donc, si vous êtes disponible là, dans 15 jours pour venir à Paris, welcome. Voilà, il y en a déjà un là qui vient, un autre là-bas. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur Toulouse, on est quelques-uns à s'intéresser à la création monétaire. Et on aimerait organiser en 2015 aussi un gros événement, une journée entière d'ateliers, conférences, de jeux de la corbeille. Ça, c'est pédagogique, c'est vraiment extraordinaire ce jeu. Et voilà, avec un petit côté festif pour qu'on avance sur ce sujet-là qui est primordial. Voilà, monnaie qui nous emprisonne, monnaie qui nous libère. On peut en sortir aujourd'hui de cette monnaie piège, voilà. Et ben je vois l'heure, évidemment j'ai dépassé, donc je suis désolée, je sais pas, est-ce qu'on a le temps pour le débat? Qui c'est qui peut me dire si... Il n'y a personne qui hurle pour rentrer dans la salle là derrière? Non? Si on a du temps, voilà, si vous avez... Hein? Non? Ça suit après là? Est-ce qu'on peut décaler un peu, 10 minutes? En fait, je suis désolée, mais les quelques problèmes techniques ont réduit un tout petit peu. Voilà, donc. Ou alors, dehors, si vous voulez, tous ceux qui ont envie de discuter, on peut se retrouver dehors et discuter. Voilà. Merci.